Go, la revue presse JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer.
C'est pas sexy Sarah ça.
C'est pas sexy choucroute Sarah ça.
Nous sommes le mercredi 18 juillet 2018, bienvenue à toutes et tous. Ce matin, une édition exclusivement 100% Japon. Vous le savez, chaque mercredi c'est la rubrique 100% Japon. Selon l'actualité, selon les articles que j'arrive à vous dénicher à droite et à gauche, ici ou là, sur la planète JV, cette rubrique prend plus ou moins de place dans l'émission. Là, ce matin, donc c'est 100% Japon, 100% jeux vidéo japonais. J'ai des bons sujets dans ma besace, j'ai des bons sujets et je veux les partager avec vous. J'espère que vous allez bien, moi c'est Bruno Roca, vous êtes toujours dans la revue de presse JV, ne vous inquiétez pas, votre podcast quotidien qui vous parle JV chaque matin. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est d'attaquer avec une brochette japonaise qui, j'en suis sûr, régalera vos oreilles et vous laissera un souvenir impérissable. Les chevilles vont bien, je vous remercie, allez, on y va. Débutons cette brochette de news japonaise avec Famitsu, le magazine Famitsu qui a établi un bien beau classement des 100 plus gros succès de 2018 au Japon. Et figurez-vous qu'en numéro 1, c'est Monster Hunter World que l'on trouve avec 1 949 592 ventes. En 2, nous avons Splatoon 2. En 3, Kirby Star Allies sur Switch qui fait une belle performance à 536 881 unités vendues. En 4ème, nous trouvons Mario Kart 8 Deluxe. En 5ème, Super Mario Odyssey, dont le cumul est quand même à 1 713 960 ventes. En 6ème, Breath of the Wild, le Zelda, avec 292 459 ventes, mais 980 500 au total. En 7ème, Pokémon Ultra Soleil. En 8ème, nous avons GQ Powerful Pro Baseball 2018. En 9ème, Mario plus The Lapin Crétin Kingdom Battle, et qui a fait quand même plus de 200 000 ventes au Japon. En 10ème, Donkey Kong Country Tropical Freeze. En 11ème, le Toy-Con 01 du Nintendo Labo. En 12ème, Feast of the North Star Lost Paradise. En 13ème, Dynasty Warrior 9. En 14ème, Mario Party The Top 100. En 15ème, Dissidia Final Fantasy NT. En 16ème, Far Cry 5. Far Cry 5 avec 144 455 unités écoulées. En 17ème, Sword Art Online. En 18ème, Mario Tennis Aces, qui vient de sortir, donc à mon avis, son score ne va faire qu'augmenter. Dark Souls Remaster en 19ème et en 20ème, Super Robot Wars X. On va reparler de Monster Hunter puisqu'un nouveau bundle en collaboration avec Sony va sortir au Japon le 26 juillet prochain pour la somme de 32 980 yens, ce qui nous fait à peu près 293 €. Ce bundle comprendra une PS4 Slim noire de 500 gigas, une DualShock 4, le jeu Monster Hunter World dans son édition standard, le guide officiel de Monster Hunter World de 64 pages, l'oreillette officielle, le câble d'alim, un câble HDMI, un câble USB pour recharger les manettes, bon, encore heureux, mais un mois d'abonnement aussi au PlayStation Plus. Hop, bondissons chez Nintendo avec Octopath Traveler sur Switch qui est déjà en rupture de stock dans certaines boutiques japonaises. Et oui, le jeu cartonne bien là-bas, alors on n'a pas encore des chiffres officiels, mais ça a l'air vraiment de bien fonctionner pour Octopath Traveler, le JRPG à l'ancienne avec son pixel art HD de toute beauté. En Europe, les stocks visiblement se vident aussi rapidement, donc à surveiller pour la suite. Mediacreate nous apprend également que Nintendo a écoulé 111 000 exemplaires de sa Famicom Mini Shonen Jump édition pendant les 3 premiers jours de commercialisation. Alors je rappelle que c'est une Famicom Mini qui rend hommage à l'anniversaire du Jump avec une vingtaine de jeux qui étaient sortis à l'époque donc sur Famicom, la NES japonaise, basée sur des licences donc du Jump. Il y a du Captain Tsubasa, Olive et Tom, du Dragon Ball, etc. Il y a même du Dragon Quest, puisque son existence est intimement liée au Jump. Bref, la console a été lancée le 6 juillet au Japon au prix de 7980 yens, soit une soixantaine d'euros. Donc ça a été le carton. Switch toujours avec la version d'Undertale, vous savez, ce RPG, ce JRPG occidental qui ressemble à s'y méprendre à un Mother et qui détourne complètement les codes du genre, sera lancé sur la console hybride de Nintendo le 15 septembre au Japon, et ça c'est selon Amazon Japan. Il y aura également une version physique avec un beau petit livret d'histoire à l'intérieur. Enfin, terminons cette brochette de news avec une note beaucoup plus triste. Nous avons appris hier soir que Kaori Fujita, mangaka, illustratrice et chara-designer de la série Suikoden, nous a quitté le 13 juillet dernier à l'âge de 47 ans. Donc c'est une artiste de talent qui nous quitte et bien évidemment nos pensées vont à sa famille ainsi qu'à ses amis. Le Japon va légaliser les tournois e-sport avec un cash prize à la clé. C'est Dextero.fr qui nous cause de tout cela et qui nous dit que les enjeux financiers de l'e-sport sont extrêmement importants. Ça, on le savait. Le secteur commence à se populariser et s'ouvrir au grand public. Ça, on le savait. Mais au Japon, il faut savoir qu'on interdit depuis 1907 tout jeu d'argent. Ce qui fait que le secteur de l'e-sport au Japon est démuni de cash prize lors de compétitions puisque cela impliquerait bien sûr de jouer de l'argent. D'après Bloomberg, les Japonais tentent de contourner la loi avec un système de licence. L'e-sport a des enjeux économiques majeurs, par la publicité dans un premier temps, mais aussi de par les tournois organisés. Donc le gouvernement japonais va accorder des licences pour donner le statut de joueur professionnel à des joueurs de Call of Duty, de Street Fighter V, de Tekken 7 ou encore de PES 2018. Ces licences sont le moyen pour les joueurs d'être légitimes à remporter des cash prizes en compétition. Le vice-président du groupe Jizu Hirokazu Amamura, qui s'occupe donc de l'e-sport et de son implantation au Japon, a expliqué, je le cite, « C'est le premier grand pas pour l'e-sport au Japon. Ce qui est vraiment important pour ce mouvement est de savoir si nos joueurs peuvent devenir des stars, et je pense que cela va arriver. » Or, je ne sais pas ce qu'en pensent les spécialistes de l'e-sport. Coucou Bertrand. Bertrand Amar, qui est un fidèle auditeur de l'émission que je salue à nouveau, qui est le taulier de la chaîne ES1 dédiée à l'e-sport. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Je ne sais pas ce qu'en pensent celles et ceux parmi vous qui roulent leur bille au niveau de l'e-sport. En tout cas, au Japon, bien évidemment, on veut également sa part du gâteau, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est intéressant de voir comment cela va se développer au Japon. Même si je suis loin d'être un spécialiste du domaine et de l'économie surtout qui tourne autour de l'e-sport, je pense qu'il y a beaucoup vraiment de chemin encore pour arriver au niveau de ce qu'on peut trouver aux États-Unis, dans d'autres pays d'Asie ou bien sûr en Europe. Mais avec un appui officiel derrière et une volonté farouche de développer le secteur, je ne vois pas pourquoi l'e-sport ne pourrait pas se développer tout à fait correctement au Japon. Affaire à suivre donc, comme disent les jeunes. La culture japonaise à Québec. C'est un article tiré du site lesoleil.com, un site québécois, qui nous explique qu'un jeu vidéo développé à Québec devient l'occasion de plusieurs premières en même temps. Et oui, alors que la jeune entreprise Artisan Studios s'apprête à lancer son premier jeu vidéo, c'est aussi l'occasion pour l'éditeur japonais Idea Factory d'établir un premier partenariat hors du Japon pour la production du 15e titre de leur série mythique Super Neptunia RPG dans un univers en 2D. Donc ça, c'est pour la première fois qu'une alliance se fait autour de cette licence. Super Neptunia RPG, si vous suivez un petit peu l'actu du jeu japonais, c'est un jeu vraiment qui s'inspire énormément de Valkyrie Profile, avec de la belle 2D et des personnages vraiment purement typiques du style animé japonais. Mais ce jeu est développé à Québec. Et oui, alors le papier nous dit que lors de la conférence de presse à l'incubateur Le Camp de Québec International, on consacrait donc cette première visite au Québec pour Damien Hurvois, chef de département développement des affaires à l'étranger d'Idea Factory, et aussi pour Madame Naoko Mizuno, productrice et responsable de la série Neptunia chez Compile Hearts. Et donc avec ce nouveau titre en production finale à Québec, Idea Factory, on dit Idea Factory, je précise que c'est un studio canadien formé par des passionnés de JRPG, et comme je vous le disais il y a quelques secondes, Super Neptunia fait vraiment inspirer de Valkyrie Profile. Bref, je continue de vous livrer le texte de ce papier qui nous dit que Idea Factory donc veut commencer la conquête des marchés de l'Amérique et de l'Europe avec son jeu destiné à la PlayStation 4 et à la Nintendo Switch. L'éditeur a ouvert même une succursale à Los Angeles, en Californie, et donc le lancement international aura lieu cet automne. Et donc Monsieur Hurvois d'Idea Factory nous dit, je cite, « Nous cherchons un studio ayant l'expertise de la production des jeux de rôle en 2D, ce qui est rare au Japon depuis quelques années. » En tout cas, c'est son avis. Et donc on nous dit que l'éditeur publie, bon an mal an, entre 35 et 40 jeux avec son équipe de 160 personnes à la maison mère et avec la participation d'une vingtaine de studios satellites au Japon. Pour le cofondateur et président d'Artisan Studio, Mario Rizzo, et son associé Julien Bourgeois, cette première production a fait grimper à 12 le niveau d'employés à Québec, qui en compte 2 ou 6 à Paris. Monsieur Rizzo compte embaucher 2 nouvelles personnes dans les prochaines semaines et 5 de plus dans les prochaines années. Monsieur Bourgeois nous rappelle, je cite, « Nous produisons essentiellement des jeux en 2D Nous nous efforçons de développer de l'innovation autant dans la technologie que dans le graphisme. Tout ce que vous voyez à l'écran, chaque décor et chaque mouvement ont été dessinés à la main par des artistes dans le plus grand respect de l'univers de la série et de la culture japonaise. Effectivement, visuellement, ça a vraiment de la tronche et on n'a pas l'impression que ce jeu a été développé avec d'autres studios qu'un studio japonais. Chaque personnage, donc, nous dit-on, est dessiné à la main par Tsunako, l'artiste principal de la série, ceci expliquant ce rendu aussi complètement ouf, avant d'être animé par la magie du numérique à Québec. D'ailleurs, nous dit-on, Madame Naoko Mizuno était à Québec pour superviser les derniers détails de la version de production. Julien Bourgeois, d'ailleurs, nous dit, ça parle beaucoup en japonais dans notre studio en ce moment. Donc, au cours des deux dernières années, Artisan Studio a investi 1,5 million de dollars pour son développement. L'équipe a quitté le nid de l'incubateur pour loger dans le hub sur le boulevard Charest, demeurant ainsi dans l'écosystème numérique de Québec. D'ailleurs, je précise également que ce sera la première apparition de la licence Neptunia sur la console hybride de Nintendo, ce qui n'est pas rien malgré tout. Et donc c'est une bonne... c'est une alliance encore assez étonnante et qui, à mon avis, va donner quand même un jeu qui a l'air tout du moins solide. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz sur les réseaux sociaux, sur Discord, mais Super Neptunia a vraiment une super tronche, vraiment. Ça fait envie. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Bravo le Japon, bravo Québec, vive l'amour, vive la vie, j'ai envie de vous dire. C'est ainsi que se termine cette édition. Oh, bou, c'est triste, je le sais bien. Mais on se retrouve demain, même heure, même chaîne, même flux. Vous le savez, Apple Podcast, parce que maintenant on dit Apple Podcast et plus iTunes. Deezer, Podcloud, je suis partout, je suis là à votre service. Dès 6h du matin, l'émission est postée dès 6h du matin, je vous le dis. D'ailleurs, je changerai le slogan pour la saison 2 de l'émission, puisque maintenant, l'émission, hop, à 6h, ça tombe. Même si je partage l'info sur les réseaux sociaux à partir de 7h, 7h30, pour ne pas trop polluer votre fil quand même. Voilà, à 6h ça tombe. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Panache et robustesse, quelle que soit la tâche qui vous incombe, qui vous attende et qui vous décombe. Et je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures, pleines de news, pleines de sujets. Bref, pleines de bonheur en quelque sorte. Allez, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité et vos partages. Et je vous dis donc à demain. Allez, bye bye.